Bonjour. Je commence par prier, puis après on va démarrer. Seigneur, merci pour ta grâce qui repose dans nos vies. Et c'est vrai que je te prie de continuer à nous émonder. C'est vrai, comme tu as commencé, de continuer afin que nous puissions porter beaucoup de fruits et des bons fruits. Et Seigneur, je te prie d'ouvrir nos cœurs à ton intelligence, d'ouvrir nos pensées à ton intelligence. Que nous puissions faire un avec toi. Parce que tu es ce cèpe et que nous sommes simplement des serments. Et Seigneur, ce qu'on ne peut pas faire avec des mots, je te prie que ton esprit vienne le déposer. Au-delà de... Ouais Seigneur, qu'un fleuve d'eau vive puisse couler ce matin. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Donc on va parler ce matin de confession. Donc il existe différents types de confessions. Et c'est vrai que tout de suite, là maintenant, je crois que je le préparais, ça, je pense à ce qu'on appelle la confession catholique ou les gens de confession protestante ou évangélique. C'est pas de ça que je vais vous parler ce matin. Au départ, le mot confession veut dire en tout cas quelque chose qui veut dire la même chose, ne pas contester, admettre, dire la même chose. Je ne conteste pas, j'admets. Donc en fait, quand je confesse que Dieu est grand, je dis la même chose que Dieu. Je suis d'accord avec lui, ni plus ni moins. Parce que finalement, tant que je ne l'ai pas lu, tant que quelqu'un ne m'a pas dit, ben pour moi Dieu c'est un être qui existe quelque part, mais j'en sais trop rien. Puis un jour, la révélation vient, et puis je peux comprendre que Dieu est grand. Mais c'est d'abord lui qui l'a déclaré. Quand Dieu dit que l'Éternel des armées, ce n'est pas moi qui le proclame et qui le met sur son trône, il est déjà. Donc en fait, je ne fais que acquiescer à des choses qui existent déjà. Donc j'admets que Dieu est grand. D'ailleurs, en petit en passant, c'est peut-être la seule chose pour moi qui est difficile. Dieu est grand, mais en quoi en fait? Dieu est grand, différentes choses, la taille est toujours très compliquée. On peut parler qu'il est, ouais, que Dieu est bon, que Dieu est miséricordieux, qu'on a on vient de le chanter. En fait, ici, une confession, c'est proclamer simplement une vérité. Je confesse, je proclame une vérité. Ici, c'est reconnaître l'attribut de Dieu et peut-être même aussi d'une personne. On peut dire parfois à quelqu'un, dont, ben, je reconnais, je confesse que j'étais surpris par ça, que... Voilà, je confesse. Et dans Hébreux 13, 15, il est dit simplement que par lui... par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Voilà, on confesse. Et c'est un sacrifice de louange, simplement, c'est ce qu'on a déjà fait ce matin, et c'est ce qu'on fait régulièrement. Ce n'est pas mon but ce matin. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, sur cette confession-là qui existe, qui est importante, qui est une première chose, reconnaître qui est Dieu, reconnaître qui nous sommes. La confession, c'est aussi le fait de faire une profession de foi, c'est reconnaître son engagement, sa soumission à Dieu. Dans 2 Timothée 6, 12, 13, 2 Timothée 6, 1 Timothée, pardon, 6, 12, 13, il est dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession. » En présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Voilà, des confessions qui sont faites, dans lesquelles on s'engage. Et en général, par exemple, au moment du baptême, on fait une confession. On accepte et on dit voilà. Et dans beaucoup d'églises, d'ailleurs, dans beaucoup d'assemblées, vous avez ce qu'on appelle la confession de foi, c'est-à-dire ce qu'il croit. Et donc c'est souvent un acte d'engagement et de soumission. Alors bien sûr, cet acte d'engagement et de soumission ne peut que suivre la repentance. Si tu n'as pas de repentance, il ne peut pas y avoir de temps d'engagement. Une autre confession que l'on pratique aussi régulièrement dans nos assemblées, c'est la confession des péchés de la nation. C'est ce qu'on vit dans les temps d'intercession en général. Par exemple, pour ceux qui sont au courant, il y a eu une conférence en Afrique, au Gabon, au mois de juillet dernier. Et Samuel Rhin a pu demander pardon pour la France devant le président de la République du Gabon. Il a pu se repentir des péchés de ce que nous, Européens, on a fait à ces nations. Et ces péchés continuent d'ailleurs. Ce qui est terrible, c'est qu'on doit demander pardon pour les péchés du passé, mais on continue encore aujourd'hui à parfois mettre ces nations sous l'esclavage. Donc c'est la confession que l'on fait. Et ça va, il nous arrive assez régulièrement de pleurer pour les péchés. C'est ce qu'on a vécu dans la réconciliation avec l'Alsace, où l'Alsace a pu crier tout ce qui était au fond d'elle. Mais ça aussi, c'est une confession. Elle a reconnu que quelque chose n'était pas bon en elle, que quelque chose avait grandi en elle, qu'une amertume, une colère était née. Et c'est aussi, quand tu le confesses, tu dis, mais voilà ce qui est. Pas quelque chose où tu passes ta pommade, où tu le caches. Tu dis, voilà, ça c'est la vérité. J'admets que ça existe dans mon cœur. Et c'est aussi une confession. Champ de choses, alors parfois on peut imaginer que les charismatiques ont tout réinventé. On rappelle simplement que ça fait des années que ça existe. C'est pas seulement des années, mais Dieu l'avait institué de manière très claire. Par exemple, dans Lévitique 16, il y a ceux qui sont un peu d'origine messianique là-bas, peut-être pourront corriger. Il dit que au moins une fois par an, Aaron, donc les Lévites, on prenait un bouc, on posait les mains sur le bouc et confessait toutes les iniquités des enfants d'Israël, toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché, donc tout ce qui a été fait, et on chasse le bouc dehors, on vide les péchés. Donc là, une intercession qui est faite pour la nation. D'autres intercessions du même style, il y a Néhémie, quand il a pleuré, en 1-4. Jusqu'à 11. Dieu chantait ces choses, les choses qu'il entend sur Israël. Je m'assis, je pleurais, je fais plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant Dieu. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, celle qui t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Et ainsi de suite. Non seulement si on en retrouve ce genre de choses, un autre passage que j'aimerais lire avec vous là-dessus, c'est 2 Chroniques 6. Normalement, pour l'instant, vous devrez être assez à l'aise, parce que c'est des choses que vous connaissez. Alors, c'est vrai que c'est une prière que là, j'ai redécouverte, celle de Salomon, quand il va dédier le temple, elle est absolument incroyable. Et donc, il va parler à Dieu de tout ce qui s'est passé quand il va dédier le temple. Et je ne vais pas lire tout ce qui était dessus. Verset 16. Maintenant, Éternel Dieu, observe à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu lui avais dit. Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël. Pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma loi comme tu marches en ma présence. Et maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, qu'elle se confirme la parole que tu dis à ton serviteur David. Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement avec l'être humain sur la terre ? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que ton serviteur t'adresse. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts cette maison, ce lieu dont tu as dit que là, tu mettrais ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce moment. Tu écouteras les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. C'est toi qui écouteras de ce lieu où tu sièges, depuis les cieux, tu écouteras et tu pardonneras. Et puis il y a toute une suite de « si quelqu'un pêche contre son prochain, toi tu écouteras » verset 23. Verset 24, « si ton peuple Israël est battu devant l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent » verset 25, « c'est toi qui écouteras des cieux et tu pardonneras. » Verset 26, « quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie parce qu'ils auront péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu » verset 27, « toi tu écouteras des cieux et tu pardonneras. » Verset 28, « quand il y aura la famine dans le pays, il y aura la peste, Verset 29. Chaque prière, chaque supplication que t'adresse à ton homme, tout homme ainsi que ton peuple Israël, alors chacun aura reconnu sa plaie et sa douleur, qu'il étendra sa main vers cette maison. C'est toi qui écouteras des cieux où tu sièges. Donc je ne vais pas faire. C'est pas là-dessus que je non plus je vais prêcher. Donc c'est aussi une confession qui existe. Confesser les péchés de son peuple. Mais c'est d'une autre confession que je veux parler, quelque chose qu'on a peut-être un petit peu oublié, mis de côté. C'est la confession de nos propres péchés. Et je crois qu'on l'a fait régulièrement, c'est-à-dire qu'on confesse nos péchés à Dieu. Seigneur, au secours, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je pense qu'on passe tous par là. Mais moi, malgré tout, il y a quelque chose qui manque encore et encore. L'année dernière, pendant qu'on a fait la marche, on a vécu beaucoup de temps d'intercession de ce type. On prie pour la nation et on reçoit la repentance par rapport à ce que la nation a fait. On prie, on se repent de nos péchés. Et je me rappelle d'une journée toute spéciale, on avait prié aux deux noms. Les Suédois s'étaient repentis face à ce qui s'était passé dans la guerre de 30 ans, sous la pluie, sous la neige, presque. La pluie, pas la neige. Le vent, on a pu prier. Et un peu plus tard, on a pu prier, toujours cette même journée, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, à Sainte-Marie aux Mines. Et les anabaptistes, au travers de Janet et Rusty, s'étaient repentis de ce qu'ils avaient accepté de se taire. Ils s'étaient repentis de ce qui était cette sourde division qui s'était passée dans la vallée de Sainte-Marie aux Mines. Et puis on a continué à marcher, parfois en pleurant, parfois en criant, parfois en... Ouais. Et puis, à un moment donné, on s'est retrouvés à la fin de la journée, on avait bien marché, la journée était terminée, et souvent dans ces temps, on se met en cercle, et puis on continue à prier pour voir si Dieu nous dit encore quelque chose, mais simplement pour finir la journée. Et on était sur un parking, là-bas en haut, sur la crête des Vosges. Et sur la fin de la marche, deux personnes avaient mal au dos. C'était Jocelyne et Manuela. Ce que je reçus à ce moment-là, c'est qu'il y avait un problème avec les reins. Parce que parfois, quand on a mal au dos, ben, c'est la colonne vertébrale, les lombaires, on peut avoir... Mais là, ce qui m'est venu vraiment à l'esprit, c'était les reins. On avait commencé à prier par rapport à ça. Et un tas d'images me sont venues. Et alors qu'on continue à prier, donc on était quand même une vingtaine de personnes ce jour-là, c'est que une bonne vingtaine. Hein. Tout d'un coup, au milieu de ce temps-là, Jocelyne a commencé à sentir un peu bizarre. Tu voudrais venir raconter ? Jocelyne n'a pas envie de raconter, je raconterai à sa place. Elle s'est sentie partir. Réellement partir. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle était au milieu de nous, et puis elle n'avait plus aucune force. Elle ne se tenait plus debout. Elle disait, mais je pars. Elle me cherchait. Elle disait, mais quelque part, elle se sentait mourir. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on sent quand on va mourir, mais l'impression de vide absolu est en train de venir à ce moment-là. Ok. On a continué à prier. Plusieurs choses sont passées. La première chose, c'est que Manu est venu derrière elle. Il y avait aussi Donna et d'autres personnes qui pratiquement l'ont soutenue. Et une des premières choses qui arrive, c'est quand le corps se met en route. Et elle a pu dire, mais par la suite, dire, mais le corps était là. J'ai senti qu'on me prenait. Je n'étais pas seul. C'est ce sentiment de ne pas être seul face à ce qui est en train d'en arriver. Mais elle se sentait toujours autant partir, malgré les proclamations, le parler en langue et tout ce qu'on avait à ce moment-là. Et puis, vous savez que les reins nous parlent de quoi ? Le rein nous parle du sang. Et le rein nous parle de purification du sang. Donc, ce que j'avais depuis tout à l'heure à cœur, qui grandissait, qui continuait de grandir, c'était le passage de Jacques. Vous savez, il est dit à un moment donné plusieurs choses dans Jacques. Et une partie de ces versets, on les connaît bien, on les pratique bien régulièrement dans l'Église. Mais pas l'autre partie. Jacques 5. On va commencer au verset 12. « Avant tout, mes frères, ne jugerez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sur le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ?» Qu'il prie. C'est ce qu'on fait régulièrement. Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. Et on fait cela. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens d'église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. On fait ça ? Oui. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur la relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Est-ce qu'on fait ça ? Oui. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Et à ce moment-là, la prière agissant du juste a une grande efficacité. Cette montagne, à ce moment-là, j'ai simplement confessé notre manque de confession. Je dis, mais Seigneur, on a oublié la confession, celle-là, là. On l'a oublié. Seigneur, on te confesse notre manque de confession. Et au même instant, Jocelyne a ressenti la vie revenir dans sa vie. Ça y est, c'est parti. Ça va. Après, Manuela aussi, me semble-t-il, une des personnes ont dit qu'on commençait vraiment à avoir peur, parce que Jocelyne, elle partait vraiment. Ça fait un moment, ça fait 10 minutes qu'elle disait, mais je ne sens plus, je pars. Jocelyne me disait après, elle me cherchait pour me dire au revoir, parce que pour elle, c'était fini. Elle ne me verrait plus. Donc on a vécu un moment très spécial. Et on n'avait pas prévu de vivre ce temps-là, ce soir-là, sur le parking. On n'avait qu'une bonne journée. Point. Est-ce qu'on avait besoin d'aller plus loin ? Mais on avait commencé cette journée dans la repentance. Et je crois que Dieu voulait nous montrer que quand on confesse nos péchés, que ce soit en tant que corps, pour la nation, mais aussi qu'en tant qu'individu, quelque chose se passe. Et pourquoi cette douleur au rein et qu'est-ce que ça a à voir avec la confession ? Alors le rein, finalement, c'est pas grand-chose hein, comme organe. Ces deux petits trucs, là, ils sont pas plus gros que ça, me semble-t-il. C'est deux gros haricots, un peu plus quand même. Et à quoi ils servent ? C'est simplement une espèce de filtre, comme le filtre à café, dans lequel on va passer le sang. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Des impuretés vont être enlevées. C'est la fonction du rein. Donc c'est pour ça que nos jeunes dame avait mal au rein. Je crois que c'est un signe que Dieu voulait nous montrer qu'il y a quelque chose qui doit être rétabli dans l'Église. Et c'est la confession des péchés les uns aux autres. Pas juste devant Dieu. Alors c'est pas évident parce que en tant que bon évangélique et en tant qu'ancien catholique, on a mis de côté un tas de trucs. Et ici, je lis tout de suite, le but, ce n'est pas de retourner à des rites, quels qu'ils soient. On n'a pas annoncé à notre évangile que ce que Christ nous a donné.